Le réveil culturel. Toufik Hakem.
90 secondes. Je dispose de 90 secondes, c'est tout. Au passage du mont Lénard, l'ultime rempart, il me restera plus que 45 secondes. J'aurai déjà broyé, sans même en rendre compte, tout ce qui pousse, fleurit, belle, meugle ou jappe. Je frapperai aux portes de la ville dans 30 secondes. À ce moment précis, je n'aurai plus que 15 secondes pour détruire Saint-Pierre. Je savoure d'avance chaque seconde de ce vertige. Je m'en délecte. Je sais que le moment venu, je ne serai plus qu'une force brutale, sans jouissance, ni horizon, butée contre elle-même et dépossédée de toute liberté. 30 000 morts en 15 secondes. Voilà la vérité comptable de mon plan. 2 000 morts par seconde. Le calcul m'effraie. Je me sens comme l'assassin auquel on reproche d'avoir porté 36 coups de couteau à sa victime. Au procès, on s'indigne. Monsieur le juge, un seul suffisait? On me voudrait en meurtrière frugale, aussi sobre que la guillotine. Une tueuse économe. À 90 secondes, je suis encore un assassin. À 15, je deviens un monstre. Mais qui vous empêchait de partir? C'est un extrait du dernier roman de Daniel Picouli, édité par Albin Michel, 90 secondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le Réveil Culturel ou à nous écouter en différé par le podcast et l'écoute en ligne. Le Réveil Culturel, c'est toujours avec Corinne Abar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et aujourd'hui à la prise de son, Frédéric Changenet.
Le Réveil Culturel, lundi, livre.
Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le Réveil Culturel a accueilli ce livre avec stupéfaction parce que c'est d'une violence inouïe, d'autant plus que le narrateur, c'est la montagne. Enfin, quand je dis la montagne, disons le mot, c'est le volcan.
Oui, c'est le volcan qui raconte. Je ne voyais pas qui d'autre pouvait raconter une histoire comme ça, qui pouvait en avoir les tenants, les aboutissants, les motivations. Et donc j'ai choisi cette façon de raconter qui était déjà dans le Crimée de Ligouane, mon précédent roman, où la montagne prenait la parole pour dire aux hommes ce qui allait leur arriver et leur dire pourquoi. Parce que la question qui termine cet extrait, mais c'est vrai, mais pourquoi n'êtes-vous pas parti? C'est la grande question de cette catastrophe pendant trois semaines. Là, on a raconté ces 90 dernières secondes, mais pendant trois semaines, la montagne prévient. Elle envoie
cette poussière. 90 secondes, on l'a compris maintenant, c'est-à-dire une minute et demie, c'est le temps qu'a mis le grand volcan de l'île de Martinique, et le plus dangereux des Antilles, pour tuer près de 30 000 personnes et transformer donc la ville de Saint-Pierre en décor d'apocalypse. C'était en mai, et c'était il y a très longtemps, en 1902. Mmh. Alors, première question, Daniel Picouli, pourquoi revenir sur cet événement?
Je reviens parce que tout simplement, c'est le chagrin de mon grand-père. Mon grand-père est né à Fort-de-France en 1893. Il a 9 ans ce jour-là, lui-même 1902. Et c'est un gamin qui rêve de voir le plus beau bateau du monde, le Belém. Et justement, le Belém va accoster à Saint-Pierre pour les fêtes de l'Ascension. Il tanne sa mère pour y aller. Et il décide.
Et on le comprend.
On comprend, c'est un gamin. Et ils sont à l'embarcadère ce matin du 8 mai 1902 pour aller prendre la navette. Et on entend dans la foule qui justement attend cette navette que le Belém n'accostera pas à Saint-Pierre. Une bataille une querelle entre deux capitaines bretons. L'un veut pas laisser la place qu'il a déjà, et donc le Belém devra faire le tour de l'île. Le Tariama, puisque c'est de lui dont il s'agit, restera et mourra.
Donc votre grand-père, il est enfant, il est très triste,
oui.
Mais en même temps, sa vie est sauvée.
Sa vie est sauvée, la mienne, parce que c'est toute la lignée, c'est toute la lignée des Picouli qui aurait disparu ce jour-là s'ils avaient pris ce bateau. Donc moi, quand je raconte ce livre, c'est un peu, je fais faire à mon grand-père le chemin qu'il a pas pu faire, parce qu'il n'est jamais retourné à Saint-Pierre, la ville était complètement détruite, et je l'emmène. Et je me suis retrouvé, moi l'adulte, avec mes plus de 60 ans, à prendre par la main ce gamin de 9 ans pour lui montrer le Saint-Pierre qu'il n'avait jamais vu. Et cette histoire, c'est ce que j'ai raconté à mon grand-père. Et quand on parle de 30 000 morts, c'est pas tout à fait ça. Moi, je raconte 30 000 vies, 30 000 destins, parce que cette histoire est pleine de destins. Ça a beau être un Titanic, c'est d'ailleurs de ces histoires dont on connaît la fin. Il nous reste toujours, je ne sais pas si vous avez vu le Titanic, je ne sais pas si vous avez vous aussi voulu sauver ces petits amoureux.
Il y a des amoureux dans votre livre,
Absolument.
Picouli.
Absolument, ouais, j'ai voulu incarner ce miracle. J'ai voulu incarner ce miracle que représente ce désir que l'on a de sauver des petits amoureux. Donc il y a un couple d'amoureux, oui, Othello et Louise. Ils sont aux deux extrémités sociales et raciales de la ville, mais ils s'en fichent. Ils s'aiment et ils vont vivre ces quelques jours comme deux amoureux qui fuient, parce que bien évidemment, comme ce sont des amoureux dans une société où on n'accepte pas ces différences, on les poursuit. Et d'ailleurs, le livre commence au jardin botanique de Saint-Pierre.
Que vous décrivez très bien. Revenons encore à ce qui s'est passé en mai 1902, Daniel Picouli. Est-ce que ce volcan, est-ce que cette catastrophe est très présente dans la mémoire familiale? Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Est-ce que de génération en génération, on revient à ce jour funeste de mai 1902?
Il y a un paradoxe dans cette catastrophe, c'est qu'elle est unique. Elle est même unique en France. Il n'y a jamais eu 30 000 morts et une ville rasée comme celle-là. Et pourtant, quand on va à Saint-Pierre, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'oubli. Ou du moins, qu'on ne veut pas revenir non pas sur cette catastrophe, mais sur ce qu'était Saint-Pierre avant, c'est-à-dire une ville coloniale, une espèce même d'excroissance d'une ville coloniale, une espèce de culpabilité à l'écart de cette ville qui était richissime, débauchée, qui était, une caricature.
Oui, c'est ce que vous dites, petit Paris, d'accord, petite suite, ok, mais d'abord c'est une ville catin.
Absolument, mais c'est comme ça qu'elle était considérée par Fort-de-France. Fort-de-France est la ville la plus importante, c'est le siège administratif, mais elle a le col serrée, elle est rigoureuse, alors que Saint-Pierre se débauche, elle est riche, elle le montre, et c'est une catin, c'est une ville de port, et ces catins sont des provocatrices, ce sont des femmes matadors, elles affichent leur or, elles affichent leurs amants en pleine rue, elles sont
et leurs injustices et leur racisme.
Absolument, complètement, et donc on peut sentir, quand on parle de Saint-Pierre, à Saint-Pierre, à ceux qui l'habitent encore aujourd'hui. C'est une ville qui maintenant fait 5 à 6 000 habitants. Il y a quelques traces, bien évidemment, de la catastrophe et de ce qu'il y avait. Et un musée qui est une sorte de cabinet de curiosité. Parce qu'il n'y a pas, et c'est ça qui m'a le plus surpris, un lieu de mémoire, un endroit où on pourrait revivre la beauté de Saint-Pierre. Ne serait-ce qu'une maquette, ces formidables documentaires en 3D où on peut se promener dans Rome, dans Pompéi. Il y aurait ça, on aurait une idée. Non, il reste ce qu'il reste, un petit train touristique et la sempiternelle visite de la cellule du seul survivant, Siparis. Et ça m'a en même temps un peu désolé. Je peux comprendre, mais ça m'a désolé parce que cette histoire est somptueuse. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu le faire revivre Saint-Pierre dans toute sa beauté. Et d'ailleurs, c'est une des prétentions de la montagne. Elle ne veut pas raser une petite ville, un rien. Non, elle veut raser une merveille. Et elle s'en vante. Et donc moi je dois raconter cette merveille avant de la détruire. Je suis dans la peau de la montagne pelée. Je suis, normalement je porte dans mes entrailles ce qui va détruire Saint-Pierre. Nous passons toujours prendre la victime, mais s'il vous plaît, bonjour. Le respect assez pour tout le monde, c'est la race qui n'y c'est la race humaine. La résine, tout partout, laissez son gogo. Mais j'y vais sans campagne, au lieu où fait plusieurs bagailles en même temps, oui. Toujours prendre la victime, mais s'il vous plaît, bonjour. Nous pas besoin de connaître. Pour nous dire bonjour. La petite moutou partout, laissez son gogo, toujours prendre la vie. Bon habit, payez tous les matins, à tenir le cas oublié. Toujours prendre la vie, mais s'il vous plaît, bonjour. La vie a été encore là pour nous, c'est des fourmis dans la croix. On m'y fout, Paola Cassinde, papa son cavoué, Paola Cassinde, on m'y fout, Paola Cassinde. Bayo l'amour, bouillon belle plus fort, nous vont la violence et puis la haine. Toujours prendre la victime, mais si sous
chercher la sagesse, collectif la vie bénéficie.
La partout.
Alors vous dites que c'est un récit titanique, vous avez raison de le dire, parce qu'on connaît la catastrophe, on sait d'avance ce qui va se passer, et vous allez nous faire découvrir l'ambiance du moment, les jours d'avant, quelques protagonistes qui représentent bien cette micro-société, et puis bien sûr ces deux amoureux que vous allez sauver ou pas. Ça je ne peux pas le dire, Daniel Picouli, ce matin, mais vous parlez comme si vous étiez la montagne, mais moi je l'ai lu comme un, plutôt que titanique, comme un récit biblique, comme si c'était Dieu qui parlait. Il y a même l'Arche de Noé un peu dans votre récit, presque.
Il y a l'Arche de Noé et puis il y a Sodome, puisque c'est comme ça qu'était considéré Saint-Pierre. C'est-à-dire le fait qu'elle soit rasée est tout simplement, la réalisation d'une prédiction biblique. Oui, bien sûr, elle doit être rasée. Et dans ce récit, la montagne prend aussi la position d'un dieu, d'une déesse. Elle est omnipotente, elle fera ce qu'elle veut, indépendamment de toute justice.
Mais dites donc, vous avez pris la voix de Dieu dans votre dernier roman, Daniel Picouli.
Mais que fait un narrateur? Que fait un narrateur, en général, à part exercer ce privilège qui, normalement, devrait être réservé aux dieux? Bien sûr, j'ai le droit de gracier qui je veux. J'ai le droit bien évidemment, en respectant parfaitement l'histoire. Parce qu'il est très important. Moi, je rends hommage également à ceux qui sont disparus dans cette catastrophe. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'histoire, tous les personnages historiques dont on connaît effectivement la vie et la fin, sont respectés dans cet ouvrage.
Mais comment les reconnaître? On devine que ce marin italien, je crois, parce qu'il a vécu justement ce genre d'éruption de volcan, qui va lui se sauver, contrairement aux autres, doit sans doute faire partie de ces personnes qui ont réellement existé. Et connaît-il pour le reste? Parce qu'il y a des politiques, il y a toute une société avec des personnages sympathiques, d'autres antipathiques, et la plupart, comme nous tous, ils peuvent être les deux à la fois.
Oui, vous avez raison, ce capitaine, c'est le capitaine de l'Orsolina, c'est un Italien, et lui, il va avoir le courage de fuir. Il va avoir le courage de fuir parce que lui, il a été élevé au pied du Vésuve et il sait ce qu'il en est de la catastrophe. Et quand il voit la montagne pelée dans cet état, il la prédit, cette catastrophe. Et on veut l'arracher, on veut l'arrêter, on veut arraisonner son navire, on veut le mettre en prison. Il dit, mais qui me mettra en prison? Demain, vous serez tous morts. Et cet homme est tout simplement l'incarnation de la culture du risque, de la culture du danger. Lui, on aurait dû l'écouter parce qu'il savait. Et à Saint-Pierre, on était acculturés en matière de danger. On ne se souvenait plus que la montagne, il y a 50 ans, avait fait une éruption. Pas aussi puissante, mais une éruption. C'est-à-dire qu'ils incarnent la rupture du lien que l'on peut avoir avec la nature, qui nous fait aujourd'hui, face à un tsunami, quand on voit les animaux monter sur les hauteurs, on les photographie, on les regarde, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ils font ça, ni ne les imite, bien
évidemment. Et ce professeur qui se trompe sur ses prévisions, il a existé,
Nathalie? Ah oui, le professeur Land. Ouais. Le professeur Land est presque le seul petit amoureux du volcan. Et elle a une grande tendresse pour lui. Il la connaît par cœur, il habite juste à côté, il la photographie, il la répertorie. Enfin, c'est un de ces hommes qui sont passionnés par le volcan. Et la montagne pelée, dans un premier temps, pense qu'elle va l'épargner. Il suffit qu'elle dérive un peu cette nuée ardente pour le sauver. Et lui, il va être un petit peu à l'image de Pline l'Ancien. Il va s'approcher trop près. Dans le Vésuve, Pline l'Ancien veut voir, veut savoir, veut plus que savoir, il veut presque toucher le danger. Il en mourra. Et le professeur Land, parce que c'est historique et on peut le dire, va mourir dans les conditions exactes que je dis là, qui sont simplement, il a fait une erreur de calcul, une petite erreur de trigonométrie qui va lui coûter la vie. Il y a donc, vous voyez, c'est des personnages comme ça qui sont, et je suis content que vous posiez la question de savoir qui sont les personnages historiques, qui sont ceux qui sont des personnages romanesques, parce que je les espère indéménables pour certains. Bien évidemment, certains sont repérables, mais d'autres pas. Moi, ce que je veux, c'est quand on lit ce livre, qu'on s'attache à ces personnages. Et c'est assez pervers, parce que moi, je vais devoir les tuer. Tous. C'est-à-dire que quand j'arrive au 13e chapitre, je m'arrête. Tellement il pèse sur moi le devoir de donner une vie digne et une mort encore plus digne à tous ces personnages.
Avec la question qu'on se pose en lisant justement votre roman 90 secondes, Daniel Picouli, est-ce qu'il va sauver ses amoureux? Est-ce qu'il va sauver son Roméo et Juliette? Est-ce qu'il va sauver Louise et Othello? Et ça, ce sont des personnages de fiction.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Assez dit. nou pa bon pou ayen. A se kwe, nou pe pa fe ayen. An nou kwe, an nou fe, la vi nou, se ta nou. Nou pa we, jou pou we, l'an mizen. Si an moun fe kwe, ke ou pa bon. Ka fe ou dite, sans raison. Fatalité, c'est un poison. Dévisé, ambition. Fatalité, c'est un poison. Quatre rêves, nous nions la vie. Assez dit, nous pas bon. Ouais, nous peut pas faire rien. On nous ouais, on nous fait. La vie nous, c'est à nous. Nous pas ouais, joue pour elle en misère. Rêve nous c'est ça qu'a tient nous. Rêve nous c'est ça qu'a guidé nous. Si nous pas bâcher.
Une ville rasée en 90 secondes, c'est la montagne Pelée qui a craché de la boue et du feu, qui a ravagé les champs, les bêtes et les hommes. C'est dans le dernier roman de Daniel Picouli, mon invité aujourd'hui, 90 secondes, édité chez Albin Michel. Et on parlait justement de ces deux personnages romanesques, ces amoureux, Louise et Othello. Othello, l'enfant du fleuve, au teint basané, et puis Louise, la blanche. On peut le dire comme ça, mais c'est surtout la victime promise à un riche planteur. Mmh. Ils s'aiment.
Oui.
Est-ce que vous allez les sauver? On ne va pas répondre à cette question.
Non, on ne répondra pas à cette question-là, mais parce que c'est en fait, ces deux amoureux incarnent une espèce de miracle que j'ai et que vous avez peut-être constaté comme ça quand on voit des images de tremblements de terre. À un moment, la caméra s'arrête sur une étagère sur laquelle il y a deux petites tasses en porcelaine. Toutes les catastrophes fabriquent ce genre de miracle. C'est irrationnel, on ne sait pas pourquoi. Et je me suis dit que moi, il me fallait ces deux petites tasses en porcelaine et j'ai pensé qu'Othello et Louise étaient les plus belles petites tasses que je puisse écrire et faire vivre. Donc, je suis en train de parler d'un miracle. Et je suis en train de dire que je vais essayer de sauver, parce qu'inconsciemment, tout le monde sait que si on crée des amoureux, c'est pour les sauver. Et en même temps... J'ai affaire à qui? À la montagne Pelée? J'ai affaire à quoi? À la nuit ardente? Qu'est-ce que c'est une nuit ardente? C'est une montagne de 50 mètres de haut, faite de roches et de gaz à 1000 degrés qui va à 500 à l'heure. Comment objectivement, même si on a un talent littéraire et de la poésie, comment peut-on les sauver? Ça va être un de mes enjeux à moi. Mais c'est d'abord de les faire vivre et de les faire traverser tout Saint-Pierre. Et d'avoir effectivement tous ces personnages à qui, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de donner une mort qui soit à la hauteur de l'effroi dont je vais les épargner.
Et pourtant, en lisant ce livre, on a l'impression qu'ils ont affaire à une vengeance divine.
Oui, et peut-être même certains le croient. Peut-être même au dernier moment, mais ça va tellement vite que je ne crois pas que qui que ce soit ait pu avoir conscience. Moi, quand j'ai été au moment de faire exploser cette montagne, parce que je l'ai fait monter en moi, ça grondait, et j'ai vécu la même surprise que la montagne Pelée, car ce qui est sorti de moi n'avait rien à voir avec ce que je prévoyais. La montagne Pelée, elle a un plan. Elle croit qu'elle va pouvoir maîtriser ce qu'elle a en elle. Et quand j'ai rencontré des jeunes gens qui avaient lu ce livre, ils comprenaient ce que ça pouvait être qu'une espèce de colère intérieure qu'on peut avoir quand on est un adolescent et qu'on croit pouvoir maîtriser. Et je leur disais non, surtout ne la faites pas sortir. Vous ne pourrez pas la maîtriser. C'est ce qui est arrivé à la montagne Pelée. Et ces jeunes gens, c'était dans le cadre du concours des lycéens, c'est extraordinaire. C'est une chance extraordinaire de rencontrer des jeunes gens qui ont lu des livres aujourd'hui, qui sont passionnés et qui s'engueulent même sur les livres des différents nominés. Et ces jeunes gens aussi ont vu dans cette histoire une histoire d'aujourd'hui. le risque de catastrophe. Malheureusement, la catastrophe semble être notre avenir. On le voit, on la voit se multiplier. Et on a le sentiment que si on ne renoue pas ce lien avec la nature dont je parlais, et si on n'inscrit pas, j'allais dire, dans nos attitudes un peu d'humilité, on risque de revivre des catastrophes de ce genre.
Daniel Picouli, pour 90 secondes, avant d'écrire ce roman, vous avez tourné un film où déjà vous étiez dans le rôle de la montagne. Déjà, vous aviez, comme s'il fallait pour vous visualiser les choses avant de passer à l'écrit.
Ah, il fallait les visualiser. Et je conseille à tout un chacun, si vous allez à Saint-Pierre, bien sûr, mettez-vous au pied du volcan, regardez-la ou même montez, mais mettez-vous dans la rade, baignez-vous dans la rade. Et là, vous aurez l'impression, vous verrez la force, la puissance, la présence de la montagne pelée. Et vous sentirez le mouvement qui va envahir et qui va détruire Saint-Pierre. Il y a une nécessité physique à se mettre dans cette situation-là. Parce que ce qui se passe dans ce livre est extraordinairement sensuel, physique, violent. Et il fallait absolument que moi
Vous avez l'impression d'avoir exprimé plus de choses en passant par l'écrit que par le film ou l'inverse?
Ah oui, beaucoup plus parce que il y a...
Plus par l'écrit?
Ah oui, plus par l'écrit parce que il y a le fait de donner la parole à cette montagne, à ce volcan, à ce dieu.
Mais vous le faisiez aussi pour le film, hein?
Oui, mais pas sur le même ton. Pas sur le même ton.
Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, c'est cette espèce d'exigence. Vous traitez d'une catastrophe, vous traitez d'un désastre humain. Il faut que vous éleviez votre écriture. Mais j'ai pas eu à me forcer. J'ai juste eu à écouter la montagne qui, à la fois, est vengeresse, mais à la fois, elle est respectueuse. C'est-à-dire qu'elle n'y a aucun élément de trivialité ni de vulgarité quand elle s'adresse aux hommes. Elle leur fait une leçon philosophique, une leçon de morale en même temps. Donc, c'est ce qui a produit chez moi une écriture qu'on a la gentillesse, quand on le lit, de retrouver. Et elle est à la fois baroque, elle est à la fois poétique, elle est à la fois violente, comme vous l'avez dit au début, mais elle est empreinte de tendresse. Elle aimerait pouvoir, et elle leur dit, sauvez-vous. La seule vraie question, c'est pourquoi ne m'ont-ils pas écouté? Et moi, je retrouve dans ce volcan cette frustration dont les jeunes gens m'ont parlé. Cette façon qu'on a, qu'on peut, quand on est adolescent, d'avoir le sentiment qu'on nous écoute pas, qu'on ne nous respecte pas. Et ça ne provoque que de la violence. Et cette fable, si je puis dire, qu'est ce roman, contient aussi cette frustration adolescente qu'il faut maîtriser un jour ou l'autre. Et ce livre, bien évidemment, il est sauvé par l'amour. Il est sauvé par l'amour.
On n'en dit pas plus, Daniel Picouli. Que reste-t-il de cet événement tragique dans la ville de Saint-Pierre aujourd'hui?
Aujourd'hui, il en reste pour moi une sorte de malaise. Le mien, et j'ai l'impression, celui d'une population qui n'a pas fondamentalement envie de faire revivre ce qu'elle considérait comme une obscénité, comme un lieu qui exprimait les plus violents ravages du racisme, de la ségrégation sociale, de la richesse et de la débauche. Et moi, j'ai envie de leur dire non. Faites revivre bellement cette ville, et c'est à partir de cette résurrection-là qu'on pourra parler de tout ça, qu'on pourra le faire revivre aussi, qu'on pourra le critiquer, qu'on pourra le mettre à distance et qu'on pourra peut-être influer dessus. Et je pense que ce serait dommage de nouveau ensevelir Saint-Pierre, d'une deuxième fois faire disparaître Saint-Pierre. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire revivre Saint-Pierre pour qu'on en parle, même pour dire que c'était une débauchée, même pour dire qu'elle méritait son châtiment. Parlons-en d'abord.
Daniel Picouli, alors vous avez été déjà primé, vous avez déjà eu le prix Renaudot pour 90 secondes, sans aucune déception de ne pas avoir été jusqu'au bout de ces sélections pour le Goncourt, Daniel Picouli?
Non, je peux pas, j'ai pas le droit d'être déçu. J'ai eu la chance, après 20 ans de prix Renaudot, d'ailleurs on m'avait dit, t'as eu prix Renaudot? Alors, n'aie pas d'espoir, il y a très peu de gens, je crois qu'il y avait Yergan, c'est tout, qui a eu le Renaudot et le Goncourt. Je l'avais dit dès le début. Je m'étais borné la déception dès le début, puisque j'avais dit, moi, ce que je souhaitais, c'est d'être dans la première liste pour pouvoir rencontrer les étudiants dans le cadre du concours des lycéens. Je l'ai fait. J'en ai tiré un profit, un bonheur terrible. Rencontrer des jeunes gens aujourd'hui qui se passionnent pour la littérature d'aujourd'hui, ça fait du bien. Ce bien-là, je l'ai, on ne pourra pas me le retirer. Quant au reste, c'est ainsi. Et ce que je constate et qui me produit beaucoup de plaisir, c'est que ce livre est formidablement reçu. Quand il est lu, les gens viennent m'en parler avec beaucoup d'émotion, et ça aussi, je l'ai, c'est acquis. Et je suis très heureux du devenir et de la façon qu'a 90 secondes de vivre en librairie et chez les lecteurs. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Alors franchement, oser être déçu, je trouve que ça aurait un côté inconvenant.
Merci Daniel Picouli d'être passé ce matin.